Café de Flore avec Niki de Passe.
Café de Flore continue avec Corinne Aux et Jacques Mercier. Bonjour Corinne.
Bonjour Niki.
Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler de ce nouvel ouvrage paru aux éditions Nouvelles, Vallée de Nuit. Et Jacques, je crois qu'il va apprécier également. Alors
oui,
Jacques ne l'a pas encore lu, mais ça ne va pas tarder.
Ah, ça.
Ce sont des choses qui vont intéresser
Jacques. Dans l'heure.
Alors, vous ne vous connaissez pas tous les deux, hein, je pense.
Non.
Enfin, je connais.
De nom. Voilà, exactement. Mais nous ne nous sommes jamais rencontrés.
Exactement.
Mais voilà, chose faite. Alors, Corinne, dans cet
je
ouvrage...
Je
mais
pas
oui, parce que
plutôt.
Voilà, on va réparer ça immédiatement aussi, comme la lecture de voilà. de mes vallées de nuit. Ça.
Alors, Corinne, elle a une écriture incroyablement belle, dynamique. Et ici, elle m'a paru très coquine, cette écriture.
Oui, le propos...
33 nuances de rêve.
Oui, 33 nuances de rêve et de pas n'importe quel rêve. La narration rêve chaque nuit d'un homme différent,
ouais.
qui fait à chaque fois fait un métier différent. Il y a le terrassier, il y a le gardien de musée, il y a
l'horloger
de Tari, et ce sont toujours des spécialistes, donc des hommes expérimentés dans leur domaine. Et donc ce ne sont pas des rêves anodins, ce sont des rêves presque professionnels.
Alors c'est un thème qui nous fait penser bien sûr aux nuances de grès, évidemment. C'est de là que c'est parti, ces nuances, le fait de faire un livre coquin. Sensuel, sexuel aussi.
C'est parti d'un premier texte que je me suis amusée à faire sur le pompiste. C'est pour ça que je l'ai mis en tête cette nuit. J'ai rêvé de mon pompiste. Il était épris de moi et il savonnait ma voiture. Et bon, voilà. Et ça a donné lieu à un petit délire de fantasme. Et j'ai laissé reposer ce texte et ça m'a tellement amusée que j'ai eu envie d'en faire d'autres. Et puis j'en ai fait un deuxième, un troisième, jusqu'à ce que finalement, à 33, je m'arrête. Et il y a eu quelques essais-erreurs que je n'ai pas inclus dans le livre. Et puis voilà,
C'est la première fois que vous écrivez avec autant de sensualité, Corinne Aux?
Oui, c'est-à-dire avec une sensualité orientée différemment. Quand la petite fille du grand menu, ou l'adolescente de Ma robe n'est pas froissée, ou la femme du ravissement des femmes parlait, c'était toujours avec une sensualité aussi, mais une sensualité d'enfant dans le grand menu, ou d'adolescente. C'est-à-dire, là aussi, les matières, les odeurs, les sons, entraient en ligne de compte. La présence de la mer du Nord dans Ma robe n'est pas froissée, tout ça a été vécu très sensuellement. Ici, c'est une sensualité orientée vers l'érotisme davantage.
Le rêve qu'on n'ose pas toujours faire.
C'est très bien résumé, effectivement. Oui, oui.
Ouais, il y a un peu de ça. Hein.
Oui, en général, ce qu'on n'ose pas, c'est ce dont on a très envie.
Tout à fait. Oui. Alors, on peut considérer que c'est chaque fois une nouvelle. Hein.
Oui, on peut voir ça, mais c'est en même temps...
Il y a quand même
un commun dénominateur, c'est que c'est la même rêveuse.
Oui, il y a un fil conducteur, c'est la narratrice.
C'est la même narratrice qui fait 33 rêves. Donc, les nouvelles supposent chaque fois un cadre différent, un climat différent. Elles peuvent être indépendantes l'une de l'autre. Ça peut être indépendant, puisque chaque texte tient à lui seul, mais en même temps, ce sont ses rêves et c'est toujours elle.
Alors, une petite question, c'est... Une indiscrétion plutôt,
oui.
Mais bon, on peut se le faire entre femmes. Est-ce que vous êtes imaginé être cette rêveuse par moment?
Ah bah tout le temps, bien sûr.
C'est vous en fait.
Mais quand j'écris un livre, je m'imagine évidemment dans la peau de chacun de ces personnages. Non, ce n'est pas moi, c'est mon personnage. Ah. Ce n'est pas moi.
Non, sa question, est-ce que vous l'avez vécu?
Oui, peut-être.
Ah non, je ne l'ai pas vécu. Je n'ai vécu aucun de ces rêves. Ce sont vraiment des rêves inventés. Je n'en ai rêvé aucun non plus, hélas, parce que ça doit être assez agréable d'avoir ce genre de rêve. Non, ce sont des rêves de fiction. Mais évidemment, ce personnage et moi, dans la mesure où chaque personnage que je crée, je dois me mettre dans sa peau pour le...
Oui,
voilà, pour en parler.
Oui. Alors, il y a chaque fois des petites citations à chaque histoire. Là, avec le pâtissier, vous reprenez Émile Zola. Il y a d'autres. Il y a Guy de Montpassant avec le gardien de musée. Et là, vous citez la moustache. Vous avez chaque fois les écrivains qui vont avec les rêves.
Mais c'est-à-dire que cette citation est en décalage complètement par rapport à son... à son contenu initial. Ce sont parfois des citations qui ont d'un livre qui était dans un contexte très sérieux et qu'ici, mais je dévoie en quelque sorte, parce que dans le contexte du rêve, mais voilà, elles sont décalées. Je parle de Bourdaloue, notamment pour l'aviateur, la béatitude du ciel. Bon, mais ce n'est pas dans le même sens que Bourdaloue l'avait conçu au début.
Alors, est-ce qu'il faut lire entre les lignes alors ?
Oui, bien sûr. Les interlignes sont parfois plus importants que les lignes d'écriture. Non, oui, la respiration ou l'écho.
On s'y retrouve beaucoup. Vous êtes une grande rêveuse à la base.
Oui, j'aime rêver et je rêve, oui. Et en couleur parfois.
Mais en couleur.
Mais hélas, pas en vallée de nuit. Non, pas dans la réalité.
Alors, ce livre est vraiment délicieux, hein, tout à fait dans votre style. Moi, j'aime beaucoup vous lire, Corinne Hoekes, parce que tout d'abord, vous êtes poète à la base. Il y a beaucoup de poésie.
Il y a les deux, oui.
Une écriture magnifique, une écriture très délicate comme ça. C'est de la dentelle quand on vous lit un peu. Hein. Je ne sais pas, Jean ne vous a jamais lu, mais je crois qu'il va devenir accro. Hein.
Mais je sais qu'à chaque fois, et pas ici peut-être que les citations font office d'illustration, mais souvent vous êtes souligné ou illustré ou accompagné par des illustrations.
Non, en poésie, j'ai fait quelques livres. En poésie, j'ai fait quelques livres accompagnés de. Oui, et j'ai fait quelques livres d'artistes aussi, des livres de la série des livres pauvres aussi, que Daniel Leuers constitue en France. Et ce sont des livres à quelques exemplaires, mais qui sont chaque fois faits avec un peintre, assez souvent avec Roger De Wint. Puis, alors, j'ai fait un livre de poésie avec Alexandre Holan, un autre avec Véronique Gossens. Voilà, le prochain, il y aura une vignette de Kiki Crèvecoeur. Voilà, j'aime bien aussi cette association. Et puis en poésie, ça se marie bien, ça s'appelle presque. Ce sont deux arts qui s'appellent l'un l'autre. Bon, dans la prose, évidemment, ce n'est pas le cas, mais j'aime beaucoup aussi pouvoir rechercher une couverture, une image de couverture qui coïncide avec le contenu. Et ici,
Oui, c'est très très joli. Voilà. Alors, justement, un mot sur la couverture, parce que c'est une illustration.
De Rops, c'est un Félicien Rops qui s'appelle Hypocrisie.
Ouais.
Et bon, on voit une femme nue de dos, comme elle est seule, mais elle provoque un peu celui qui la regarde. De même que la narratrice du livre provoque son lecteur, elle est seule aussi. Son imaginaire fonctionne. Ici aussi, c'est une femme nue de dos seule. Mais sur les fesses, elle a un loup noir, un masque noué sur les fesses par un petit nœud, dont on se rend compte qu'en tirant un des bouts, on peut le défaire en un seul geste. Et donc voilà, c'est ce que le lecteur peut essayer de faire peut-être en attrapant le bout du nœud du petit loup.
Cette couverture est très appropriée. Alors moi j'ai beaucoup aimé, c'est le fourreur. Et puis cette citation de Charles Baudelaire, qui est tout à fait, qui met en appétit en fait. Hein. Ce fourreur, il met en appétit.
Il met en appétit, mais il est. Oui.
Moi, j'ai bien aimé celle-là.
C'est un de mes préférés aussi.
Voilà.
Avec les deux loutres.
D'accord. Alors, un petit mot sur celle-là.
Ah, les deux loutres. Le fourreur. Je vous le raconte ou je vous le
en
lis
deux mots.
Ou je vous le
raconte. En deux mots. Bon, racontez.
Bien voilà, elle a les pieds froids. C'est une chose qui arrive sûrement à beaucoup de femmes. Elle est dans.
Ce n'est pas grave, c'est du direct.
On travaille dans le
bâtiment. Ils font des travaux, on va aller leur dire, mais on l'a déjà dit plein de fois, mais bon, c'est comme ça.
Voilà, il faut que ça se fasse.
C'est pittoresque.
Bon. Un bruit de fond, sympa. Sympa.
C'est l'incursion dans le rêve d'un foreur. Je ne l'ai pas prévu dans ma série des 33. Voilà un quatrième rêve qui s'impose.
Donc, des foreurs.
Un foreur. Bon, ça aurait été pas mal d'ailleurs. Ah, je n'ai pas développé ça, mais le foreur, bon.
Peut-être.
Bon, nous revenons au fourreur cette fois-ci. C'est une question d'un U à ajouter et d'un deuxième R. Mais il y a M. Crémer, le fourreur, qui est à côté d'elle dans son lit. Le propre de ce qui perce. Bon, les rêves permettent ce genre de choses. D'avoir tout à coup un raccourci, tout à coup une personne est dans, il peut y avoir des substitutions soudaines ou des apparitions soudaines, comme par exemple, elle est tout à coup la lettre dans le sac d'un facteur, ou elle est tout à coup aussi, le fourreur est là. elle est dans le lit du fourreur, ou bien tout à coup, le tailleur est à côté d'elle, ou l'aviateur dans son avion est à côté d'elle. Et donc, ça, c'est le propre, c'est ce que permet le rêve, c'est une des licences du rêve. Et alors, il y a aussi le fait qu'elle puisse se métamorphoser à souhait, elle est tout à coup aussi une panthère ou un nuage, ou voilà. Ici, je reviens au fourreur, puisque c'est la question. Elle est tout à coup, elle est dans le lit d'un fourreur. Et bon, ça tombe bien parce qu'elle a les pieds froids et qu'il fait chaud entre les cuisses du fourreur. Et donc, elle a grande envie de glisser ses pieds dans cet endroit très tentant par sa chaleur notamment. Et donc, elle y va très doucement pour ne pas le réveiller. Elle glisse d'abord la pointe d'un orteil, puis presque tout le pied. Et elle y va peu à peu. Et puis tout à coup, la voix de celui qu'elle croyait endormi, lui dit « Vous croyez que je ne me rends compte de rien ? C'est tout à fait glacé. » Et donc, pour que son rêve puisse se poursuivre, elle décide de transformer ses pieds en deux loutres de Sibérie dont le fourreur est familier. Donc voilà, là, ça passera mieux. Et donc, ça devient deux loutres de Sibérie.
Je sens que Jacques apprécie beaucoup.
Oui, non, c'est bien, c'est beau.
Et oui, donc, ces loutres de Sibérie sont, évidemment, deux personnages assez chasseurs, assez sauvages, qui ont des dents acérées et qui se mettent à chasser à cet endroit-là. Et donc, oui. Et notamment, elles chassent à la fois parce que c'est leur nature de chasser, mais aussi parce qu'elles veulent venger toutes les dépouilles de leurs sœurs qui gisent sous forme de manchons et d'étoles dans l'étalage du fourreur. Et c'est l'occasion pour ces deux passionnariats de venger leurs sœurs. Et bon, voilà. Mais finalement, le fourreur apprécie assez ce genre de petites morsures.
Je me doute.
Il pousse de petits geignements assez contents.
Mais on rentre alors dans le monde et le mystère féminin. Enfin, le mystère pour nous.
Oui. Non. Oui, probablement, je ne sais
sûrement,
pas.
Enfin, sûrement, c'est pas tellement des rêves que nous faisons, nous. Donc, c'est intéressant.
Ça m'étonnerait qu'un homme fasse le rêve d'avoir deux loutres qui lui grignotent l'entrecuisse.
Ce serait... faudrait que ce soit autre chose. Mais oui. pas ça, en tout cas. Oui, mais donc, c'est intéressant d'avoir votre
très
point
intéressant.
De vue.
Mais celui-ci est peut-être le plus... Bon, le plus castrateur quand même, parce que même de loutres qui vont grignoter cet endroit si sensible, ils sont pas tous les rêves ne sont pas aussi agressifs vis-à-vis de l'agent masculin.
Oui, mais celui-là était bien, je trouve, pour mettre dans l'ambiance. Hein. Mais il y en a des plus tendres, évidemment, notamment le gardien de musée.
Ah oui.
Ne te laisse jamais embrasser par un homme sans moustache. Ces baisers n'ont aucun goût, aucun. C'est vrai ça?
C'est une citation de Maupassant.
Évidemment.
Mais si je l'ai choisie, personnellement, non, je ne pense pas. Mais par rapport à ma rêveuse, cela lui convenait. Je ne sais pas si c'est vrai, non, je ne pense pas. On peut faire des... Non, je ne pense pas.
Oui, alors justement,
chaque sorte de baiser a son charme.
Oui, évidemment. Mais un mot sur le gardien de musée, et puis on ne va pas tout déflorer votre ouvrage, parce que ça vaut vraiment la peine de lire. Et j'inviterai Jacques à en faire un mémo pour la prochaine fois. Parce qu'il va adorer. Hein. Donc, un mot sur ce gardien de musée.
Le gardien de musée, voilà.
Ça aussi, c'était
la narratrice se rend au musée chaque semaine. Elle aime beaucoup les arts, mais elle aime aussi beaucoup que dès qu'elle arrive, le gardien de musée, à l'encontre de ses collègues qui restent sur leur chaise un peu inerte, lui se lève immédiatement, bondit, et se précipite vers elle. Il lui fait le baise-main. Alors il lui fait le baise-main et chaque fois il est là, fringant et empressé. Et ce gardien a l'air d'être un vrai prince qui lui fait visiter les œuvres de ses galeries. Et ce baise-main, la moustache fait beaucoup dans l'affaire, dans la séduction de ce baise-main. Alors c'est une moustache qui est la fine moustache légèrement, vraiment sur le bord de la lèvre et titillante,
un peu
qui rend à
comme
ce baise-main, voilà, un peu rasé au bord de la lèvre et qui lui titille la main à chaque fois, voilà. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ce gardien, lui aussi, se métamorphose un peu dans la mesure où, selon la salle, chaque semaine où il se trouve et où elle le découvre, le baise-main est différent. Parce que devant un Jérôme Bosch, cette moustache se fait acérée, piquante et un peu agressive. Et devant un Botticelli, elle se fait beaucoup plus langoureuse et plus rêveuse, plus pâmée. Alors, devant un Rubens, évidemment, cette moustache devient voluptueuse. Et voilà, donc chaque semaine, elle a cette surprise aussi, cette surprise d'un baise-main différent. Ça ne va jamais plus loin, c'est toujours le baise-main, mais ce baise-main contient absolument tout un programme. Hélas, un jour, elle découvre son gardien affecté à la salle des abstraits. Et la moustache se fait de plus en plus... de plus en plus absente, de plus en plus distraite. Les baisers, les baise-mains s'en ressentent. Et elle se dit qu'un jour, si on le laisse dans cette salle-là, cette moustache sera rasée. Voilà, elle attend qu'il soit à nouveau affecté à la salle des Rubens pour fréquenter le musée.
C'est joli. On a envie de vous lire, hein, le fait de vous entendre raconter ces histoires. Mais il sait à lire, hein, Les Vallées de Nuit, aux Impressions Nouvelles. C'est vraiment fabuleux. Je crois que c'est un des plus beaux ouvrages que vous avez jamais écrit, de ce que j'ai pu lire.
Les autres avaient une autre connotation, évidemment, beaucoup plus grave.
C'est peut-être parce que c'est dans l'air du temps, je ne sais pas, le fait de cette séduction permanente qu'on a envie d'avoir.
Oui, je me suis beaucoup là, amusée, dire, c'est beaucoup pas. Plus léger que les précédents. Oui. Mais la gravité du grand menu, ou de Ma robe n'est pas froissée, c'était, ou le message qui passait dans Le ravissement des femmes, avait plus de poids, avait plus de, évidemment, bien sûr que ceci, qui est un amusement, qui est un plaisir, une distraction, oui. Avec cette légèreté. On en a peut-être envie pour le moment.
Tout à fait, mais ça vous va bien, Corinne, vous êtes un petit peu légère, je trouve.
Corinne, vous écrivez depuis une bonne dizaine d'années, édité depuis une bonne dizaine d'années.
Non, mon premier roman est sorti en 2001.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, on est en 2015, 15 ans.
Oui, mais pourquoi à partir de 2001? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous n'avez pas essayé d'être édité, publié? Vous n'écriviez
pas? J'ai été édité, mais pour des ouvrages plus scientifiques, que j'étais historienne d'art.
Oui, absolument.
Spécialisée dans le folklore wallon. Et donc, c'était tout autre chose.
D'accord.
Donc, j'ai fait des travaux, quelques petits livres, mais où il y avait toujours les notes de pied, l'obligation de justifier chaque chose que j'avançais. Et bon, le jour où j'ai compris que je pouvais faire de la fiction et que je pouvais m'y autoriser, il a fallu sans doute un long parcours de vie pour s'autoriser à raconter n'importe quoi, c'est-à-dire tout ce qui me passait par la tête et par mon inconscient. Et c'était une libération et
quelque
un grand
chose,
plaisir.
Quelqu'un a déclenché ça? Une proposition ou bien tout à coup une maturation?
Non, une maturation. Oui. Une maturation. Un désir qui était là depuis très longtemps, depuis toujours, mais auquel, pendant toute une époque, je n'ai pas osé donner place, parce que je ne pensais pas avoir droit au chapitre sans parler d'autre chose que de moi-même. Ouais. Et une fois que j'ai compris que je pouvais parler de moi, c'était beaucoup plus, beaucoup plus agréable. Mais j'ai d'abord parlé de moi de façon grave, parce que la petite fille avait beaucoup de choses à dire, et que c'était des choses vraiment nécessaires et vitales, ça devait être dit. Et puis après, je suis passée ici, maintenant, je me suis autorisée encore une étape suivante, c'est-à-dire cette légèreté.
J'ai trouvé une très jolie phrase de vous, je ne sais pas où, mais c'est toujours juin quand tu es avec moi.
C'est dans un livre qui s'appelle Juin.
Ah oui, voilà.
Et oui, merci.
C'est fabuleux, c'est une très très belle phrase.
Oui. J'aime beaucoup ce livre parce que c'est un livre qui, dans toute cette série de livres graves, sérieux et durs, qui dénonce quand même, pour la plupart, les trois premiers, l'abus de pouvoir dans les relations familiales. Juin, c'est un livre, c'est un livre qui se remémore la relation grand-mère-petite-fille. Et donc, c'est la femme qui parle à la grand-mère décédée depuis bien longtemps et qui se souvient de tous ces mois de juin où qu'elle passait avec sa grand-mère au jardin. C'est toujours juin quand tu es avec moi. Une minute de juin, un instant d'existence absolue. Et donc, voilà, juin, et puis ça continue. Bon, voilà, pour moi, ce recueil a beaucoup compté parce que c'est un recueil charnel dans une série de livres où précisément la narratrice est tellement privée de cette chair, justement. Donc c'est une sorte d'antidote à la dureté qui est racontée dans les autres romans. Merci d'avoir relevé cette phrase.
Vous en parlez très bien.
Alors, on va faire une petite pause musicale à 10h24 et puis on retrouve Jacques pour son mémo du jour.